Elsa Sababa. Paris, on aura l'occasion de se reparler très bientôt sur Radio J.
Radio J, le 6-9, l'NF Radio.
Il est 7h, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous comme tous les matins. Nous sommes en direct ce mercredi 1er mai 2024. 208e jour de guerre contre le Hamas et toujours 133 otages dans la bande de Gaza.
Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem.
Et à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel, Boker Tov, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken est arrivé hier soir en Israël pour sa 8e visite depuis le début de la guerre.
Et oui, effectivement, Ilana, Anthony Blinken s'entretiendra ce matin avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, avec le président Herzog, avec le ministre Benny Gantz. À l'ordre du jour de ces discussions, le marché sur la libération des otages dont on parle beaucoup en Israël, l'opération israélienne dans Rafah, l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, le dossier du nord d'Israël et enfin l'option d'une normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite. Hier, la Maison-Blanche a indiqué qu'il n'y avait aucun changement dans sa position contre une opération militaire israélienne dans Rafah. Le porte-parole du Conseil à la sécurité nationale, John Kirby, a affirmé qu'Israël n'avait pas encore présenté de plan visant à permettre l'évacuation de centaines de milliers de Gazaouis de la ville de Rafah.
Et Israël continue à attendre la réponse officielle du Hamas à la proposition faite ces derniers jours en vue d'une libération d'otages.
Oui, le Qatar a fait savoir que la direction du mouvement terroriste avait des réserves quant à cette proposition d'accord, mais cela ne signifie pas, il dit, qu'il n'y aura pas d'accord entre les deux parties. Le Hamas exige en effet des garanties internationales sur la fin de la guerre, garanties qu'Israël se refuse à donner. Hier soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a affirmé que Tsahal opérera dans Rafah avec ou sans marché en vue de la libération des otages, une déclaration qui n'a certainement pas plu au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a lancé un appel afin qu'Israël n'initie pas cette opération donc dans la ville de Rafah.
En tout cas, cette opération dans Rafah est en passe de provoquer, Daniel, une crise politique qui ébranle le gouvernement.
En effet, Benjamin Netanyahu doit faire face à des exigences contraires de la part de ses ministres. Au centre, Benny Gantz et Gadi Eisenkot veulent donner la priorité à un marché de libération des otages, tandis que de l'autre côté, à l'aile droite du gouvernement, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir veulent que Netanyahu lance le plus rapidement possible cette opération dans la ville de Rafah pour exercer ainsi des pressions militaires sur Yahya Sinwar. Certains observateurs affirment que ces tensions pourraient entraîner le départ d'un ou deux des deux camps de l'actuel gouvernement israélien.
Et puis dans ce contexte de tension politique, la 12e chaîne de la télévision israélienne a rendu public un sondage intéressant.
Oui, selon ce sondage, le camp républicain de Benny Gantz reste toujours le parti le plus important en Israël avec 31 sièges. Le Likoud obtiendrait, s'il y avait des élections ces prochains jours en Israël, 18 mandats, le Yesh Atid de Lapid 15, le Chass 10 mandats, tout comme Israël Beitenu et Otzma Yehudit de Itamar Ben-Gvir. Le judaïsme de la Torah obtiendrait 8 mandats, les partis arabes Hadash Tal et Ra'am 5 mandats chacun, le sionisme religieux de Smotrich 4 également pour le parti Meretz. Selon ce sondage, le bloc des partis de l'actuel coalition n'obtiendrait que 50 mandats, alors que ce même bloc était à 47 mandats dans le précédent sondage. Autre résultat important, Benjamin Netanyahu, 58% des personnes interrogées estiment que Benjamin Netanyahu, le Premier ministre, doit absolument démissionner.
Et justement, le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est exprimé hier soir autour de possibles mandats d'arrêt qui seraient déposés contre des dirigeants israéliens par la Cour pénale internationale.
Oui, la publication de tels mandats d'arrêt serait une distorsion de la justice et une tâche sur l'humanité, a déclaré le Premier ministre dans une vidéo. Ce serait là un véritable scandale. Le Premier ministre a accusé la Cour pénale internationale de vouloir empêcher Israël de lutter contre le terrorisme 80 ans après la Shoah. Il s'avère que les organismes internationaux créés pour éviter une seconde Shoah veulent refuser à l'État juif le droit de se défendre contre ceux qui ont tenté de commettre un génocide à notre égard, a encore affirmé donc hier soir le Premier ministre.
Et puis pour terminer, le ministre de l'Intérieur Moshe Arbel du parti Chass a décidé de ne pas accorder de visa d'entrée au patron de l'UNRWA, Philippe Lazzarini.
Oui, cette décision s'inscrit dans la campagne que mène actuellement l'État d'Israël contre l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Et je vous rappelle qu'Israël accuse des fonctionnaires palestiniens de l'UNRWA d'avoir participé activement au massacre du 7 octobre. Selon les données israéliennes, un fonctionnaire de l'UNRWA sur 5 serait membre du Hamas. Il y a quelques semaines, je vous le rappelle, le rapport dressé par l'ex-chef de la diplomatie française Catherine Colonna avait prétendu que le lien entre l'UNRWA et le Hamas n'était pas avéré, même s'il pouvait y avoir, je cite, des problèmes de neutralité au sein de l'UNRWA. l'organisation onusienne.
Merci beaucoup Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. On vous retrouve dans 25 minutes à 7h30 pour la revue de la presse israélienne. Un point sur la météo ce mercredi. Le temps est gris et brumeux sur les trois quarts du pays avec des pluies sur l'arc atlantique et au sud-est. Dans l'après-midi, l'activité pluvieuse et orageuse se généralise. D'ailleurs, 14 départements, dont tous ceux d'Île-de-France, ont été placés en vigilance orange. Une vague d'orage fort va balayer les régions, effectivement, allant de la Bourgogne aux Hauts-de-France entre la fin de l'après-midi de ce mercredi et cette nuit. C'est ce que dit, en tout cas, Météo France. Il fera 20 degrés cet après-midi à Paris, 14 à Marseille. Et puis en Israël, de belles températures, toujours 24 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et plus de 34 degrés à Eilat.
Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
7h05, nous sommes en direct ce mercredi 1er mai. Merci de nous rejoindre et nous sommes à présent en ligne avec Arnaud Klarsfeld, l'avocat Arnaud Klarsfeld et notre chroniqueur du mercredi matin. Bonjour Arnaud.
Bonjour, même fête du travail, je suis là.
Effectivement, bravo. Bravo à vous d'être au rendez-vous, Arnaud. Alors ce matin, Arnaud, vous souhaitiez lancer un appel à nos auditeurs et à nos auditrices alors qu'arrivent les élections européennes. On le rappelle, les élections qui se tiendront du 6 au dimanche 9 juin prochain.
Oui. Pour ceux qui m'écoutent régulièrement, ils savent combien de fois je les ai alertés par le passé sur la détestation d'Israël qui sévit sur les campus américains et ailleurs dans le monde occidental, et sur le danger que cela représentait, car ces universités sont formatrices des élites de demain. Mon père Serge, que j'aime beaucoup, écrivait il y a quelques semaines dans le Figaro qu'il fallait investir afin que les jeunes juifs soient réactifs et motivés. Je cite: les juifs doivent être conscients qu'ils appartiennent à des générations exceptionnelles de juifs, avec des responsabilités exceptionnelles pour l'avenir du judaïsme, ce qui doit se répercuter dans le niveau élevé de leurs études, par leur familiarité avec Israël, avec les Israéliens et avec l'hébreu, par la dialectique et la capacité de répartie aux diatribes et arguments anti-juifs. Les organisations juives devraient en conséquence modifier leur programme. Lutter contre l'antisémitisme n'est plus la priorité. Les seules réelles victoires remportées dans cette lutte sont d'une part la défaite du négationnisme et d'autre part l'abandon de l'ADN de l'antisémitisme par des partis issus de la droite extrême et devenus partisans d'Israël et protecteurs des juifs contre l'islam radical. Il faut armer les juifs intellectuellement, moralement et physiquement à ce qui risque de leur arriver.
Alors qu'est-ce que vous...
Fermez les guillemets.
Alors qu'est-ce que vous en déduisez, Arnaud, justement?
J'en déduis que ni le peuple américain ni le peuple français ne sont antisémites. Ce que nous voyons, ce sont essentiellement des minorités mugissantes, des grandes gueules qui cherchent à terroriser quelques gens. Il y a aussi quelques gens de bonne volonté idéaliste dévoyés, ou des étudiants fascinés par ceux qui font semblant de se révolter. Je dis bien « font semblant de se révolter » puisque nous constatons que ces grandes gueules ne sont pas des gros bras. Ils ne sont pas prêts à se battre, ils ne sont pas prêts à tuer ni à mourir, sinon il y aurait déjà des morts. Ils pensent à la révolution, oui, mais ils pensent aussi à leur retraite, ils calculent leur point de retraite en pensant à la révolution. C'est la situation aujourd'hui, mais la situation peut évoluer, elle peut s'empirer, et on peut légitimement se dire que si quelques individus dans une université parviennent à tant vilipender Israël et le sionisme sans que la majorité silencieuse ne réagisse, ce qui est normal, puisque la plupart des gens veulent se tenir à l'écart d'un conflit qui ne les concerne que de loin, quelle sera la situation quand cette minorité deviendra de moins en moins minoritaire? Il faut donc en conscience choisir aux élections les partis qui seront le plus propices à défendre la communauté juive contre ses ennemis, qui ne sont pas encore aujourd'hui, heureusement, trop nombreux.
Voilà. Eh bien, merci Arnaud Klarsfeld pour cet appel ce matin sur Radio J. On vous retrouve chaque semaine sur Radio J. Je vous dis à la semaine prochaine.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Et vous nous rejoignez sur Radio J, et comme chaque mercredi matin, c'est l'heure de retrouver à présent l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Daniel Saada. Bonjour Daniel.
Bokartov, Ilana.
Et merci d'être avec nous. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pessah. Alors, évidemment, des fêtes aussi marquées par une actualité difficile. Après les grandes universités aux États-Unis, la fièvre anti-israélienne s'étend désormais en France. Sciences Po, puis la Sorbonne qui s'enflamme. Comment vous expliquez-vous, Daniel, ces phénomènes ?
Bien, je crois que vous avez utilisé le terme juste qui répond en partie à votre question. La fièvre anti-israélienne, car c'est bien de cela qu'il s'agit. On pourrait croire, on voudrait nous faire croire qu'il s'agit d'une mobilisation légitime de la jeunesse occidentale face à la détresse d'un peuple, en l'occurrence le peuple palestinien et plus particulièrement la population civile de Gaza. Mais il n'en est rien. Il ne s'agit ni d'une mobilisation légitime et spontanée, ni d'une marque de solidarité avec le peuple palestinien. Nous savons aujourd'hui que tout est orchestré, organisé, financé par les relais de l'islamisme politique en Occident, dans lesquels des fonds qataris et iraniens sont investis en masse. Quelqu'un a-t-il tenté de comprendre qui finance ces milliers de drapeaux palestiniens qui font subitement surface sur les campus, les tracts, les pins, les banderoles et tout le reste du matériel utilisé, le catering qui est distribué gratuitement aux manifestants qui font le siège de ces établissements pendant des jours et des nuits? S'est-on posé la question de l'origine de toute cette logistique impressionnante et hautement professionnelle qui est déployée sur ces campus pour mettre en place cette véritable stratégie de déstabilisation des esprits? Croyez-vous que ce soit un hasard que le guide suprême de la révolution iranienne, l'ayatollah Khamenei, apporte son soutien aux manifestants anti-israéliens sur les campus universitaires? Lisons son message posté il y a quelques jours sur son compte officiel X. Voyez ce qui se passe dans le monde, même dans les pays occidentaux, Angleterre, France, différents États américains. Les gens marchent en grand nombre dans les rues, scandant des slogans contre Israël et les États-Unis. Ils sont déshonorés et n'ont qu'un remède à cela. Voilà, les choses sont dites, le grand Satan des USA et le petit Satan Israël sont désormais sous le feu de l'agitation estudiantine, prélude, selon le président iranien, de leur prochaine disparition. Vous aurez constaté évidemment qu'il n'y a pas un mot pour les Palestiniens, car ce n'est juste qu'un seul prétexte à cette vaste entreprise de déstabilisation.
Ah oui, une mobilisation qui semble en effet être bien orchestrée et organisée, mais vous disiez également qu'elle n'était pas destinée à exprimer le soutien de cette jeunesse au peuple palestinien. Comment vous l'expliquez ?
Bien, en effet, là aussi, il faut être lucide et clairvoyant. Il faut répondre à des questions toutes simples. Pourquoi le conflit de Gaza est-il le seul aujourd'hui à mobiliser les foules sur ces campus ? A-t-on vu pareille mobilisation lors de l'agression russe contre l'Ukraine, lors des bombardements saoudiens sur les populations civiles du Yémen, lors du massacre de plus de 300 000 civils par le régime de Bachar el-Assad en Syrie, y compris au moyen d'armes chimiques? Puisqu'il s'agit de victimes musulmanes qui semblent avoir les faveurs de ces militants, se sont-ils mobilisés pour les Ouïghours en Chine, qui subissent une répression d'une cruauté et d'une ampleur d'un autre âge? Un tout récent rapport déposé au Parlement européen fait état de milliers de stérilisations forcées des femmes ouïghours, outre les centaines de milliers de citoyens ouïghours qui ont été internés dans des camps ou condamnés à des années de prison. Des milliers d'entre eux ont péri dans des conditions inhumaines de travail forcé et de maltraitance. Mais puisque seuls les Palestiniens semblent provoquer l'émotion de ces jeunes étudiants, alors posons-nous la question, où étaient-ils lorsque des milliers de Palestiniens sont morts affamés, massacrés lors du siège du camp de réfugiés de Yarmouk au sud de Damas par les forces syriennes? Non, Ilana, la Palestine ne les intéresse pas. Tout comme Mathilde Panot, pas un seul d'entre eux ne sait situer le Jourdain sur une carte, mais ils scandent à tue-tête depuis le fleuve jusqu'à la mer, « from the river to the sea », car en fait, eux aussi ne sont animés que par une seule chose, la haine des Juifs et d'Israël.
Eh bien, merci beaucoup Daniel Saada pour cette chronique ce matin sur Radio J. Effectivement, on suit avec attention les blocages dans les universités, que ce soit aux États-Unis ou en France. Daniel Saada, on vous retrouve très bientôt sur Radio J, comme chaque semaine, le mercredi matin. Ne bougez pas dans quelques instants. L'essentiel de l'actualité avec Eva Soto. On va évidemment faire un point aussi sur les manifestations du 1er mai. Et justement, nous serons avec Patrick Canner dès 7h20. Patrick qui sera avec nous comme chaque mercredi matin, une semaine sur deux, président du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat, qui va nous parler notamment des syndicats, la prochaine réforme de l'assurance chômage qui permettra de créer de l'emploi. Il nous dira ce qu'il en pense notamment. Restez avec nous sur Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
7h15, l'essentiel de l'actualité avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. À la une de l'actualité en Israël, en ce 208e jour de guerre contre le Hamas, une enquête de Tzal ouverte sur la mort de deux réservistes, Ido Aviv, 28 ans, et Kalkidan Meharin, 37 ans, tués dimanche à cause de tirs d'un char israélien pris dans des attaques du Hamas. Tension en Israël et en Judée-Samarie. L'ambassadeur d'Allemagne a été attaqué à coups de pierre hier, alors qu'il était en visite à l'université palestinienne de Birzeit. C'est sa voiture qui a été visée. Les étudiants ont aussi donné des coups de pied dans son véhicule et arraché son rétroviseur. Il n'y a pas eu de blessés. En revanche, il y en a eu trois autres pour la seule journée d'hier. Une Israélienne victime d'une attaque à la voiture Bélier alors qu'elle était elle-même au volant en Samarie. Également un civil et un policier, eux, poignardés dans la vieille ville de Jérusalem. En politique, Benjamin Netanyahou pris entre le marteau et l'enclume face au progrès annoncé au Caire pour libérer les otages. La pression politique monte. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, menace de quitter la coalition en cas d'accord qu'il jugerait trop clément, ce qui pourrait donc la faire tomber. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, lui, est à Jérusalem et doit d'ailleurs rencontrer aujourd'hui le premier ministre Netanyahou. La France va imposer de nouvelles sanctions à l'Iran à la prochaine réunion de l'AIEA. Les États-Unis pourraient aussi y adhérer. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre français des Affaires étrangères à son homologue Israël Katz. Stéphane Séjourné en visite à Jérusalem. En France, les LFistes Rima Hassan et Mathilde Panot entendues hier par la police. Une enquête a été ouverte contre elles pour apologie du terrorisme. Et puis, c'est le 1er mai. Préparez-vous à des manifestations. À Paris, le cortège doit s'élancer à 14h de la place de la République vers la place de la Nation. Les manifestations d'ultra-droite sont aussi attendues, ainsi que d'ultra-gauche, notamment pro-palestinienne ou anti-israélienne.
Merci beaucoup Eva Soto. Eva, prochain rendez-vous avec l'actualité avec vous, ce sera 8h sur Radio J, 7h30. N'oubliez pas la revue de la presse israélienne.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci d'être avec nous sur Radio J. Bien sûr, comme tous les matins, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Eva en parler de la mobilisation, effectivement, pour ce 1er mai, avec un cortège qui s'élancera en début d'après-midi à partir de 14h de la place de la République vers la place de la Nation. La préfecture de police qui a annoncé d'ailleurs un dispositif de circulation particulier autour de cette mobilisation entre les places de la République, de la Bastille et de la Nation, des boulevards du Temple, des Filles du Calvaire, Beaumarchais Diderot, de la rue de Lyon et de l'avenue Daumesnil. Et donc, je le rappelle, selon la préfecture, il est vivement recommandé aux automobilistes de contourner très largement le secteur pendant toute la durée de l'événement dès 10h ce matin. On aura l'occasion d'en reparler sur Radio J. Dans quelques instants, Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat, sera avec nous pour évoquer aussi un sujet important, la prochaine réforme de l'assurance chômage qui permettra, selon le gouvernement, de créer de l'emploi. Alors, il nous dira, Patrick, ce qu'il en pense justement sur Radio J. Et puis, ne bougez pas, d'autres rendez-vous, vos rendez-vous habituels, vous les connaissez. Ce sont des rendez-vous quotidiens avec Christophe Barbier. À partir de 7h45, son invité sera Cyril Chabanier, président de la Confédération française des travailleurs chrétiens. Ce sera juste après le billet d'humour de Nina Azoulay. Et puis, j'en profite aussi pour vous dire qu'à partir de 8h30, nous serons avec le père Patrick Desbois pour aborder justement l'antisémitisme en France, tout ce qui se passe dans les universités, mais aussi la situation en Arménie et pour les chrétiens de cette région. À tout à l'heure.
Radio J.
14h-15h. Le Grand Journal. Steve Nadjar.
Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. Une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h-15h. À tout à l'heure.
Radio J.
À l'occasion de Yom HaShoah, venez assister à la lecture des noms des déportés juifs de France du dimanche 5 mai à 18h au lundi 6 mai à 18h. Pendant cette lecture publique ininterrompue seront lus, un à un, les noms des personnes déportées par les convois numéro 22 à 57. La lecture des noms se déroulera au mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy Lagny à Paris, dans le 4e arrondissement. Une manifestation organisée par le mémorial de la Shoah, Judaïsme en mouvement, les fils et filles des déportés juifs de France et le consistoire sous l'égide de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
Radio J.
Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian. Radio J.
Merci de votre fidélité. 7h20, nous sommes à présent avec Patrick Kanner, président du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat. Bonjour.
Et qui va laisser ?
Bonjour Patrick.
Bonjour Ilana.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Nous sommes le 1er mai, effectivement jour férié, hein, ce mercredi 1er mai, la fête du travail. Alors est-ce que vous allez manifester, vous Patrick, aux côtés des syndicats aujourd'hui ?
Oui, je vais manifester, comme je le fais d'ailleurs tous les ans, parce que c'est la fête du travail, mais c'est pas la fête des travailleurs, si vous me permettez ce raccourci, parce que cette journée symbolique, c'est le moyen de dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, manifestement, je suis très inquiet. Un an après la réforme des retraites qui a fait peser sur les épaules des salariés le financement des retraites, même si c'est un financement qui est loin d'être opérationnel aujourd'hui, eh bien c'est l'assurance chômage, vous l'avez évoqué dans vos titres, qui est menacée après déjà avoir été réformée. Il faut le savoir. Moi, je regrette que ce soit toujours les salariés, toujours les mêmes, qui soient les victimes expiatoires finalement des mauvais résultats économique du gouvernement. Et on le voit bien aujourd'hui quand le gouvernement demande à désmicardiser la France. Je vous rappelle qu'il y a 17% des salariés qui sont aujourd'hui au SMIC. Le SMIC, c'est 1 398 € net de salaire. Eh bien, le gouvernement reconnaît qu'il y a un écrasement des grilles des salaires et ce n'est pas en tapant sur ceux qui n'ont pas de travail qu'on va améliorer cela. Donc, c'est vraiment un calcul à très court terme, je le regrette.
Alors, selon le gouvernement, en tout cas, la prochaine réforme de l'assurance chômage permettra justement de créer de l'emploi. Vous partagez pas cet objectif ?
Non, pas du tout. Ce n'est pas en durcissant l'accès à l'assurance chômage qu'on va créer de l'emploi. À l'heure actuelle, seuls 36% des inscrits à France Travail. France Travail, c'est l'ancien Pôle Emploi, l'ancien NPE pour les plus anciens qui nous écoutent. Seuls donc 36% des inscrits sont indemnisés. Donc un peu plus d'un sur trois, c'est quand même pas énorme. Donc non, les demandeurs d'emploi ne restent pas au chômage pour toucher des allocs. Alors peut-être qu'il y a une extrême minorité, 1 ou 2% de voilà qui peuvent essayer de jouer à la marge, mais ça n'est pas la réalité aujourd'hui de tous ceux qui sont à l'assurance chômage. Et donc ce n'est pas une assurance chômage moins généreuse qui va les inciter à trouver du travail. Et d'ailleurs, toutes les réformes successives de l'assurance chômage n'ont pas montré un impact sur le marché de l'emploi. Donc, moi, je ne souhaite pas qu'on rentre dans un jeu de dupes avec cette réforme. Je pense que le gouvernement doit dire la vérité. Il ne veut pas créer de l'emploi avec cette réforme. Ce qu'il veut, c'est faire des économies. Le gouvernement a 3 000 milliards de dettes sur le dos actuellement, 1 000 milliards qui sont dus à la gestion de Monsieur Macron. Et donc, ce n'est pas aux demandeurs d'emploi de payer l'incurie, la mauvaise gestion du gouvernement. Donc, oui, je m'oppose à cette réforme de l'assurance chômage telle qu'elle se présente.
Et vous inquiétez pour les demandeurs d'emploi. Alors, en quoi, justement, cette réforme les précariserait ?
Alors, cette réforme poussera encore davantage les demandeurs d'emploi dans la pauvreté, la précarité. Moi, je vais vous rappeler quelques chiffres pour vous-même, pour nos auditeurs. Depuis 2019, on a les derniers chiffres que nous avons dans les mains, 45% des allocataires sont passés sous le seuil de pauvreté. Je vous rappelle que le seuil de pauvreté, c'est à peu près à 1 000 € par mois. 45% des allocataires sont en dessous. Je vous rappelle qu'il y a dans notre pays 10 millions de pauvres environ, donc 2,5 millions d'enfants. C'est pour la 6e ou 7e puissance économique mondiale. C'est vraiment pas un bon résultat. C'est même assez humiliant et c'est terrible pour les familles, et les hommes, les femmes, les enfants concernés. Donc l'inflation aujourd'hui est en train de rogner le pouvoir d'achat. La réforme de l'assurance chômage va précariser et le gouvernement s'entête, s'obstine à ne pas essayer d'utiliser voilà, le seul moyen dont il a la possibilité, à savoir la fiscalité, pour mieux répartir les richesses. Vous savez, d'un côté, 10 millions de pauvres qui vont être aggravés par l'assurance chômage ainsi réformée, telle que je vous l'ai évoqué, et de l'autre côté, 64 milliards d'euros de mémoire de dividendes aux actionnaires du CAC 40, chercher l'erreur. C'est ça aujourd'hui le problème, et le gouvernement, ce 1er mai, sera interpellé par tous ceux qui iront manifester, et j'en serai.
Eh bien, merci beaucoup Patrick Kanner. Effectivement, entre 15 000 et 30 000 personnes sont attendues dans la capitale à l'occasion du défilé du 1er mai. Une manifestation qui s'élancera à 14 heures de la place de la République dans une unité assez large, hein, puisque la CFDT et l'UNSA en seront avec la CGT, FSU et Solidaires. On aura l'occasion d'en reparler sur Radio G. À noter que les manifestants passeront par le boulevard Voltaire, parce que je sais que beaucoup d'entre vous habitent dans ce coin-là, donc il est recommandé, si vous avez une voiture, d'éviter le secteur dès 10h ce matin. Merci Patrick Kanner, qu'on retrouve chaque semaine, une semaine sur deux, sur Radio J. Ne bougez pas dans quelques instants. Retour à l'actualité en Israël avec Pascal Sunshine. On va en parler également dans la revue de la presse israélienne. Tout ce qu'il ne faut pas rater ce matin dans la presse, dans les médias israéliens, à la télévision en Israël. On va en parler avec Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. Et puis, bien sûr, vos rendez-vous habituels, vous les connaissez, à partir de 7h40, le billet d'humeur d'humour de Nina Azoulay et 7h45, l'invité de Christophe Barbier.
Radio J, Zoom Israël, Pascal Sunshine.
Radio J. Et oui, nous retrouvons en Israël, à Jérusalem, notre correspondante Pascal Sunshine. Pascal, ce matin, on s'intéresse à cette guerre multifront que doit livrer Israël et qui se joue aussi sur le terrain judiciaire, puisqu'on l'apprenait il y a déjà quelques jours, hein, la Cour pénale internationale pourrait faire arrêter des dirigeants israéliens.
Et oui, pas de répit non plus pour Israël sur le front judiciaire, alors que la Cour internationale de justice continue de traiter la plainte déposée par l'Afrique du Sud qui accuse Israël de crimes de génocide contre les Palestiniens. C'est maintenant au tour de la Cour pénale internationale d'entrer en lice, selon des informations qui semblent se confirmer. Le procureur de la CPI pourrait émettre d'ici quelques jours des mandats d'arrêt internationaux contre plusieurs personnalités israéliennes pour soupçons de crimes de guerre et de violation du droit international. S'il n'y a encore eu aucune confirmation formelle en provenance de La Haye, la mesure pourrait viser le chef du gouvernement, Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, le ministre du cabinet de guerre, Benny Gantz, et le chef d'état-major de Tsahal, le général Herzi Halevi. Il s'agit d'une procédure qui a commencé bien avant la guerre en cours. L'enquête de la Cour pénale avait été ouverte en mars 2021, sur demande notamment de l'autorité palestinienne, et porte sur les agissements politiques et militaires d'Israël depuis la fin du mois de juin 2014. La Cour pénale internationale s'était déclarée compétente pour enquêter sur les événements qui avaient commencé avec l'opération Bordure protectrice de Tsahal à Gaza au cours de l'été 2014 et sans limitation de temps ni de lieu. Autrement dit, tout ce qui s'est passé depuis 10 ans à Gaza, en Judée-Samarie et à Jérusalem-Est. Début décembre, le procureur de la CPI, Karim Khan, était venu pour la première fois en Israël. Alors que la guerre contre le Hamas avait débuté presque 2 mois plus tôt, le magistrat avait notamment visité les kibboutz de l'ouest du Negev, où quelques 1200 Israéliens avaient été massacrés par les terroristes du Hamas. À noter d'ailleurs qu'au cours du mois de février, une centaine de familles d'otages et de victimes du Hamas s'était rendu à La Haye pour porter plainte devant la Cour pénale internationale et demander l'ouverture de poursuites judiciaires contre les terroristes et les chefs du Hamas. Car contrairement à la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale poursuit des individus et non pas des États. La CPI a notamment émis un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine suite à la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine. D'autres chefs d'État de dictature font l'objet de poursuites similaires, mais Israël serait la première démocratie à être ciblée. D'ailleurs, Israël et les États-Unis ne reconnaissent pas la compétence de la Cour pénale de La Haye, mais cela ne suffit pas pour mettre leurs dirigeants à l'abri. Techniquement, les 123 États signataires du statut de Rome qui régit la CPI doivent se conformer aux décisions de la Cour et donc appliquer les mandats d'arrêt si les dirigeants visés entrent sur leur territoire, ce qui concerne notamment les pays d'Europe, l'Australie et le Canada. On comprend donc la gravité de la mesure si elle était effectivement prise par le procureur de la CPI, sans compter un dangereux effet boule de neige au niveau mondial pour les ressortissants israéliens, dirigeants ou simples citoyens.
Merci Pascal Sunshine. Notre correspondante à Jérusalem, Pascal, rendez-vous tout à l'heure à partir de 8h sur Radio J pour un point encore plus complet sur l'information. Dans quelques instants, la revue de la presse israélienne avec Daniel Haïk. On va parler notamment de crise politique en Israël. Ne bougez pas les amis, nous sommes en direct ensemble jusqu'à 9h.
Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Radio J. Il est 7h30, bonjour et bienvenue sur Radio J. Et oui, bienvenue si vous nous rejoignez comme tous les matins. Nous sommes le mercredi 1er mai 2024, 208e jour de guerre contre le Hamas et toujours malheureusement 133 otages dans la bande de Gaza.
Le direct de Jérusalem vous est offert par le Keren Hayesod. Depuis plus de 100 ans, le Keren Hayesod soutient les plus fragiles en Israël.
keren-hayesod.fr.
Et à Jérusalem, nous sommes à présent avec notre correspondant Daniel Haïk. Et Daniel, nous commençons cette revue de la presse par cette crise politique qui semble poindre à l'horizon, une crise que le Yediot Aharonot nous détaille en manchette de son édition de ce matin. Et on va retrouver Daniel Haïk à Jérusalem. Est-ce que vous m'entendez, Daniel ? Daniel, on ne vous entend pas. On va tenter de retrouver la connexion. Ah, on vous entend, Daniel.
Ah, eh bien voilà. Eh bien oui, effectivement, je vous entends et on s'entend très bien tous les deux et nous allons essayer de faire un peu le point sur cette revue de la presse israélienne avec effectivement ce titre du Yediot Aharonot qui demande qui est le patron du gouvernement. C'est le titre du Yediot en manchette et qui nous montre une grande photo de Benjamin Netanyahu et quatre plus petites photos des quatre ministres qui menacent l'existence même de l'actuel gouvernement. Le Yediot Aharonot écrit en sous-titre autour de cette crise alors que les familles d'otages aspirent à un marché leur permettant la libération des otages, alors que Tsahal se prépare à entrer dans Rafah, Netanyahou doit résoudre une crise politique sérieuse entre Gantz et Smotrich. Voici l'impasse qui risque de faire chuter le gouvernement. Et pour mieux expliquer la situation, en page 2, le Yediot Aharonot titre « Le gouvernement de droite est entre les mains de six noirs ». Netanyahou se trouve entre le marteau et l'enclume. D'un côté, Smotrich et Ben-Gvir qui menacent de quitter le gouvernement si un accord empêche l'opération dans Rafah. Et de l'autre côté, le Premier ministre qui subit d'intenses pressions internationales pour conclure un tel marché avec le soutien de Benny Gantz et de Gadi Eisenkot. Et de facto, la seule chose qui peut le sauver, ce serait un rejet de la proposition faite au Hamas.
Et la manchette du Israel Hayom parle, elle, ce matin, d'instant décisif pour Israël.
Oui, le quotidien nous montre les sièges vides de certains des otages hier sur la place dite des otages à Tel Aviv et ce, dans l'attente d'une réponse possible du Hamas, justement. L'Israël Hayom parle d'optimisme à Washington, mais de pessimisme à Jérusalem. Et c'est dans ce contexte d'incertitude que le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est arrivé hier en Israël pour sa 8e visite. Depuis le début de la guerre, le journal se fait également l'écho des critiques des habitants de Judée et de Samarie qui constatent au cours des derniers jours que l'armée réduit sa présence dans ces régions, ce qui peut mettre la vie de certains de ses habitants donc en danger. Enfin, dans cette série de sous-titres importants, l'interview de Donald Trump au Time, dans lequel l'ex-président américain adresse de très vives critiques envers Benjamin Netanyahu et plus spécifiquement vers le comportement du Premier ministre le 7 octobre dernier. D'autres auraient mieux réagi que lui, a affirmé Donald Trump.
Yossi Yehoshua tente dans son analyse de comprendre comment Tsahal va pouvoir pénétrer dans Rafah en tenant compte aussi des restrictions humanitaires imposées par les Américains.
L'espace sécuritaire du Yediot Aharonot explique la complexité de la situation pour Tsahal. Les Américains n'accepteront pas la moindre atteinte à la vie de civils palestiniens. Parallèlement, ils exigeront la poursuite de l'aide humanitaire accrue à leur égard avant, durant et après une opération israélienne. Et par-dessus tout, les Égyptiens exigent une étroite coordination sécuritaire avec Israël. Les Égyptiens qui craignent en effet que dès le début de l'opération israélienne, des milliers de Gazaouis attisés par le Hamas ne se pressent au poste frontière de Rafah avec l'Égypte. Et c'est donc un véritable casse-tête que Tsahal va devoir résoudre ou tenter de résoudre si la décision d'entrer dans Rafah est effectivement prise.
Dans le reste de l'actualité, le Israël Hayom se penche, lui, sur les risques de poursuites judiciaires pour des officiels israéliens de la part de la Cour pénale internationale.
Oui, et le journal souligne que l'administration Biden exerce actuellement d'intenses pressions sur la Cour pénale internationale afin que ses juges n'envisagent même pas de déposer des mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens pour crimes de guerre. Quant au ministre israélien de la Justice, Yariv Levin, il s'en est pris au juge de la Cour suprême qui, affirme-t-il, se taise face aux intentions du procureur de la CPI de déposer de tels mandats d'arrêt. Ceux qui ont prétendu que le prestige de la Cour suprême israélienne allait nous protéger se taisent aujourd'hui, a déploré Yariv Levin en conseil des ministres hier.
Et à l'approche des commémorations du Yom HaShoah qui débutera dimanche soir, le Israel Hayom toujours en publie un sondage important.
Oui, selon les données actuelles, il reste en Israël environ 137 000 rescapés de la Shoah. Une enquête réalisée par un institut israélien pour une association de rescapés a permis d'établir que les événements dramatiques du 7 octobre ont eu un impact majeur sur ces rescapés. 64% d'entre eux admettent être beaucoup plus anxieux depuis le 7 octobre qu'ils ne l'étaient avant. Et 61% ont indiqué qu'ils avaient des descendants qui servent aujourd'hui dans Tzahal et qu'ils sont inquiets pour la survie de l'État d'Israël.
Le Yediot Aharonot évoque, lui, ce matin, ce qu'il appelle la tempête provoquée par une possible absence de Netanyahou, justement, à certaines cérémonies officielles du Yom HaTzmaout qui approchent.
Oui, et cet encadré en page 3 est un peu le comble de l'hypocrisie de la part du Yediot Aharonot, qui, on le sait, ne cache pas son hostilité envers le Premier ministre. Le quotidien constate d'abord que M. Netanyahou n'a pas participé avant-hier soir aux festivités de la Mimouna en Israël, comme il en a l'habitude. Et le journal a donc posé la question de cette absence à l'entourage du Premier ministre, un entourage qui a répondu « S'il avait participé à une soirée de la Mimouna cette année en pleine guerre, eh bien, vous l'auriez critiqué. On lui aurait lancé « Comment faites-vous la fête alors que les otages sont encore détenus par le Hamas ?» Concrètement, M. Netanyahou est ce soir-là à la Kiria, à l'état-major, pour une consultation sécuritaire importante. À propos du Yom HaTzmaout, eh bien, il semble que le Premier ministre ait l'intention d'adopter un profil bas et de ne pas participer à toutes les cérémonies officielles. Par contre, il sera bien présent durant les commémorations du Yom HaZikaron. Le Israel Hayom, lui, publie à le propos d'une éventuelle décision de Netanyahou de s'absenter des cérémonies du Yom HaTzmaout, l'éditorial de David Peretz, qui rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, Netanyahou avait justement voulu faire voter une loi imposant sa participation, par exemple, lors de la soirée des festivités sur le mont Herzl. Vous êtes le Premier ministre, vous devez faire face à vos responsabilités et participer à ces cérémonies, sinon vous n'avez qu'à démissionner, écrit-il ce matin.
En revanche, les journaux et les sites d'information affirment que Tzahal recommande d'annuler cette année les festivités de l'Akba Omer à Méron.
Oui, c'est une information importante. Au sein de l'état-major, on estime que pour des raisons évidentes liées à la guerre dans le nord d'Israël, il ne sera pas possible de garantir cette année la sécurité des dizaines de milliers de pèlerins qui viennent chaque année à cette date-là de l'Akba Omer sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron. Les journaux et les sites d'information soulignent que depuis le 7 octobre, le Hezbollah a tiré des centaines de roquettes et de missiles en direction de la base stratégique de Méron, qui est située donc sur le mont Méron, à proximité de la tombe de Rabbi Shimon. Et donc, l'armée a donc décidé de classer ce site de la tombe de Rabbi Shimon cette année comme zone militaire interdite d'accès afin d'éviter tout risque. Donc pour les fidèles, le porte-parole de Tzahal a confirmé cette information.
Et puis enfin pour terminer, les médias et les sites d'info se penchent sur la première répétition de la chanteuse israélienne Eden Golan au concours Eurovision de la chanson à Malmö.
Oui, et les médias soulignent que cette première répétition s'est déroulée dans le calme, sans incident. Il y aura encore d'autres répétitions d'ici le 7 mai, date de la demi-finale à laquelle Eden Golan participera. Le soir de cette demi-finale, des manifestations anti-israéliennes sont prévues devant la salle où se tiendra le concours à Malmö.
Merci beaucoup Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. On vous retrouve chaque matin à 7h et 7h30 sur Radio J.
Le direct de Jérusalem vous a été offert par le Keren Hayesod. Depuis plus de 100 ans, le Keren Hayesod soutient les plus fragiles en Israël. Depuis le 7 octobre, les victimes du terrorisme sont la priorité du Keren Hayesod. 300 000 déplacés, une population entière traumatisée. Les besoins sont immenses. Aidons-les.
Keren-Hayesod.fr.
Ensemble, nous vaincrons.
Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian.
Radio J.
7h38, merci d'être avec nous sur Radio J. Ne bougez pas, dans quelques instants, vos rendez-vous habituels à partir de 7h40. C'est le billet d'humour avec Nina Azoulay. Et puis juste après, la politique. L'invité politique de Christophe Barbier ce matin, c'est Cyril Chabanier, président de la Confédération française des travailleurs chrétiens. Et justement, on va parler de solidarité judéo-chrétienne également tout à l'heure à partir de 8h30 avec notre invité, le père Patrick Desbois, qui reviendra sur les récentes mobilisations, notamment notamment dans les universités américaines et françaises, et notamment à Sciences Po. On parlera aussi de ce qui se passe en Arménie pour les chrétiens menacés par le régime de Bakou, le régime de l'Azerbaïdjan. On en parlera à 8h30 sur Radio J. Restez avec nous.
Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.
À l'occasion de Yom HaShoah, venez assister à la lecture des noms des déportés juifs de France du dimanche 5 mai à 18h au lundi 6 mai à 18h. Pendant cette lecture publique ininterrompue seront lus, un à un, les noms des personnes déportées par les convois numéro 22 à 57. La lecture des noms se déroulera au mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy Lagny à Paris, dans le 4e arrondissement. Une manifestation organisée par le mémorial de la Shoah, Judaïsme en mouvement, les fils et filles des déportés juifs de France et le consistoire sous l'égide de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
Radio J, le 6-9, Hélène Ferradian.
Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, l'invité de Christophe Barbier, Cyril Chabanier, président de la Confédération française des travailleurs chrétiens. Bonjour messieurs.
Bonjour Ilana. Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Mais sans plus tarder, le mercredi, vous le savez, qui dit mercredi dit Nina Azoulay. Bonjour
bon,
Nina.
Non, carrément. Bonjour Ilana, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes.
Ouais.
C'était dur Pessard cette année, j'ai trouvé. Franchement, c'était dur. Personnellement, ça m'a coûté.
Ouais,
500 euros. 500 euros de course pour Pessard, maintenant. Alors, Pessard, c'est peut-être la fin de l'esclavage pour le peuple juif, mais c'est aussi le début du découvert, je pense. On va peut-être devoir se remettre à l'esclavage tellement on sera ruiné. Tout le monde, sauf les gérants d'épicerie cachère. Alors, ouais. Eux, je pense que c'est eux qui contrôlent le monde, finalement. Je vous jure, ils instaurent le rythme. En plus, on aura beau nous faire croire que les pâtes cachères, les Pessards, ont le même goût que les pâtes normales. Non. Non, en vrai, non. On dirait, je sais pas si vous voyez sur Facebook les recettes healthy qu'on nous vend régulièrement. Par exemple, tu vois des trucs genre frites de pâte à douce healthy. Tu penses que t'as trouvé la solution de ta vie, c'est-à-dire manger sans grossir. En fait, c'est juste des carottes coupées en bâtonnets, foutues au four. Vous êtes déjà fait avoir sur ça?
Moi, j'adore les patates douces. Les frites de patates douces.
Oui, de patates douces, pas les carottes. Pas les healthy, quoi. Mais non, mais c'est pareil pour les pâtes cachères, les Pessards. Et même si elles avaient exactement le même goût que les pâtes normales, bah, je peux te dire qu'à 20 euros les pâtes, il n'y a plus de goût.
Ça perd le goût de la vie.
Non, ouais, c'est ça. Et c'est relou là, parce que Pessard, ça tombait pendant mon anniv.
Ouais.
C'était lundi là. Un jour près, je pouvais manger un vrai gâteau. Même plusieurs d'ailleurs, parce que nous, ne l'oublions pas, le jour de mon anniversaire, les calories ne comptent pas. C'est comme ça. Et c'était mon anniv lundi, j'ai eu 27 ans.
Ah ouais.
Ouais. Alors à 27 ans, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Honnêtement, j'ai eu mon bac il y a genre 5 minutes. J'ai pas compris. Et je sais pas pourquoi, sur cet anniversaire en particulier, les 27 ans, j'ai réalisé que moi aussi je vieillis.
Ouais.
C'est en train d'arriver là. Alors qu'avant, je pensais que je serais jeune toute ma vie. En plus, jour de mon anniv, je me réveille. La première chose que ma mère me dit, c'est à ton âge, j'accouchais de ton frère. Il y a un bruit qui est sorti de ma bouche, je ne saurais pas vous le refaire tellement il était excentrique. Mais c'est vrai que j'ai pas la vie que je pensais avoir à 27 ans. Voilà, 27 ans dans mon planning, j'étais mariée, enceinte de 5 mois, et ça aurait même dû commencer à battre de l'aile dans mon couple déjà. On est une génération où plus personne fait d'efforts, donc. Mais je me sens en retard, hein. Parce que 27 ans, j'ai plein d'amis moi qui sont en couple depuis genre 6 ans, ils ont acheté un appart, monté 4 startups, ils ont fait fortune dans le Bitcoin. Moi, je bois encore du Nesquik le matin, quoi. C'est en fait eux, je sais pas comment vous dire, mais c'est des adultes à part entière. Ils sont accomplis, mieux, j'ai trouvé l'expression, ils se suffisent à eux-mêmes. C'est ça l'expression. Moi, je ne sais toujours pas me connecter à France Connect. Il y a vraiment un problème. Je me demande qui a instauré toutes ces deadlines de vie qui foutent la pression en vrai. C'est sûr que c'est des gens très beaux pour qui tout coule de source, tout est évident. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est quand je rencontre des couples, je leur demande comment ils se sont mis ensemble et ils me répondent « Bah écoute, on s'est rencontrés à une soirée par des amis en commun, on a commencé à se parler, puis de fil en aiguille, bah voilà, ça s'est fait. » Mais comment tu passes de « on a commencé à se parler » à « ça s'est fait aussi vite » Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fil en aiguille. C'est là où j'ai besoin que tu me racontes. C'est précisément là où j'ai besoin d'élucider le mystère. Parce que moi aussi, je parle à plein de gens en vrai. Et en fait, je vous dis ça, ça me stresse de vieillir, c'est vrai. Mais en même temps, je sais pas vous, mais plus je vieillis, plus je kiffe la vie.
Ouais.
Enfin, je tolère la vie. C'est vraiment, à 27 ans, je trouve que t'as, bon, à 27 c'est ans bon. Et plus après, t'as connu presque toutes les nuances de déception dans la vie, donc t'es un peu anesthésié. Vous pensez pas?
Ouais, vous êtes pas au bout de vos surprises, Nina.
Ah, super.
Attention, c'est l'âge où meurent toutes les rockstars, hein. Ouais. Amy Winehouse, wow. Kurt Cobain, l'année de tous les dangers, hein.
Il me reste,
très positif, ce matin.
Il me reste 363 jours à tenir encore. Donc, alors voilà, je commence un peu à me détendre avec la pression sociale, enfin. plus la pression sociale maintenant, j'ai peur de la mort, c'est encore mieux. Je me dis au pire, j'attendrai la première vague de divorce pour prendre un mec. Je me dis, oh, comme ça, ils seront un peu éduqués, moi, je serai plus mature, tout ça. Bon, même si j'ai fêté mon anniv au parc Astérix, là, c'est, voilà, c'est autre chose. Mais après, le soir de mon anniv, j'ai quand même fait la fête, voilà, au jus de raisin.
Voilà, sans gluten.
Oui, voilà, oui. À 30 euros le jus de raisin. Moi, pendant les fêtes, je suis à la table des enfants. Je bois vraiment du jus de raisin. D'ailleurs, ça doit être horrible. Petite anecdote qui n'a rien à voir, mais par rapport à l'alcool. Il y a un mec en Belgique qui avait été arrêté pour conduite en état d'ivresse et il a finalement été acquitté parce qu'il se sont rendu compte qu'il n'avait pas bu. C'est son corps qui produit de l'alcool tout seul.
C'est vrai, cette histoire?
Ouais.
Incroyable.
La légende raconte qu'il a même ouvert une épicerie. Et apparemment, c'est surtout quand il a mangé des glucides, genre pas de pain. Et lui, il est obligé de faire Pessard toute l'année. Mais c'est rentable, n'empêche, pas besoin d'acheter une vodka à 17 euros à l'épicerie. Tu vas à une baguette 1 euro à la boulangerie pour être bourré, quoi. C'est super. Et quand il est invité à dîner chez des gens, pas besoin de ramener une bouteille. Voilà. Et heureusement qu'il est pas musulman. Et
allez-y. Voilà. C'est votre anniversaire, hein.
Oui. Non, je me dis surtout heureusement qu'il est pas juif, sinon il contrôlerait le monde, le mec, avec son épicerie cachère. Voilà. Bonne journée à tous.
Merci beaucoup, Nina Azoulay, et bon anniversaire avec quelques jours de retard. Bon, tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, Cyril Chabanier, président de la Confédération française des travailleurs chrétiens.
Les grands débats commencent sur Radio G. Sur Radio G.
Cyril Chabanier, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, c'est aujourd'hui le 1er mai, vous allez défiler bien sûr. Quel sens a le 1er mai pour vous ?
Ah, c'est aujourd'hui la fête du travail et je crois que c'est ce qui est important, c'est de peut-être de redonner le sens du travail que parfois on a pu perdre dans ces sociétés modernes. Le travail, c'est pas que des contraintes, c'est aussi un facteur d'épanouissement, d'accomplissement personnel, c'est souvent... grâce au travail, qu'on peut avoir aussi des amis, que...
Rencontrer son futur mari ou sa future femme.
Rencontrer son futur mari et sa future femme, comme on vient de l'entendre. Vous voyez, je vous donne le fil en aiguille, du coup. Et donc, je crois que c'est important à la fois de, évidemment, aller sur les thématiques sérieuses et de revendications pour améliorer les conditions de travail, le salaire et tout ce qu'il peut y avoir autour du travail, mais rappeler aussi la valeur travail, le sens, l'accomplissement qu'il y a tout autour du travail.
Et vous êtes le président de la CFTC, le C de chrétien. Où est cette dimension maintenant spirituelle dans votre organisation?
C'est ce qui continue à être notre ligne de conduite, à nous guider dans nos réflexions. Et on voit souvent que par cette morale sociale chrétienne, on peut être en avance sur de tas des réflexions ou des tas de sujets. Je pense notamment, par exemple, la CFTC, dès 2012, parlait d'utilité sociale des métiers par cette inspiration sociale chrétienne. On se moquait presque de nous à l'époque.
Et la RSE a concrétisé.
Et puis, 8 ans plus tard, il y a eu la crise Covid. Et là, on s'est rendu compte que les métiers étaient importants et que l'utilité sociale des métiers... Tout le monde en a parlé et que c'était un facteur de reconnaissance. C'est pas un hasard si on a été les premiers et les seuls à en parler. C'est par cette morale sociale chrétienne.
Pour beaucoup de jeunes, il n'y a plus vraiment d'attachement au travail. C'est un gagne-pain, c'est une contrainte. Il n'y a plus beaucoup d'attachement à l'entreprise. On papillonne. Ça vous inquiète?
Oui, je crois que on a du mal à se projeter, mais c'est dû aussi à l'évolution du travail. La plupart des jeunes aujourd'hui se projettent sur 3-4 ans dans une entreprise, pas plus, ont envie de découvrir d'autres choses, d'autres métiers, d'autres entreprises. Et donc, comme il n'y a plus de projection, il n'y a plus forcément cet esprit un peu corporate qu'on pouvait avoir dans une entreprise. Le télétravail, sur lequel il y a des tas de choses qui sont évidemment positives sur les conciliations de temps de vie, ne facilite pas non plus, avec parfois un peu l'isolement de travailler depuis chez soi, à avoir cet esprit d'équipe ou cet esprit d'entreprise. Donc il faut faire attention à ça. Mais les choses changent. Mais il faut garder quand même cet esprit, collectif et d'entreprise.
Après la grande union des syndicats l'an dernier contre la réforme des retraites, on a l'impression aujourd'hui de vivre non pas un moment de division syndicale, mais un peu un moment de repli de chacun chez soi.
Vous savez, on a eu ce grand mouvement sur les retraites. On a su montrer notre cohésion. Après aujourd'hui, je crois qu'on continue à se parler, à se voir régulièrement. C'est déjà en soi une avancée. On se respecte les uns les autres et on essaye de continuer à travailler ensemble et d'avancer quand c'est possible. Donc, quand on a des thématiques sur lesquelles nous avons des propositions en commun, on le fait. Et encore très récemment, sur la négociation pacte de vie au travail, on a fait 10 propositions en commun. Et puis, lorsque nous avons des désaccords, chacun
communique sur ses propositions, chacun respecte les propositions de l'autre et on continue à faire son propre parcours. Il n'y a pas d'obligation à tout faire ensemble et on n'est pas revenu à parfois un peu s'ignorer. Voilà, on essaye de travailler ensemble quand on est d'accord, tout simplement.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous craignez, et les autres syndicats avec vous, que les manifestations, les cortèges soient perturbés par ceux qui voudront défendre la cause palestinienne et importer le conflit israélo-palestinien ?
C'est un risque, oui. On voit que certains partis politiques, parfois même certains syndicats peuvent en faire une thématique de revendication. Donc forcément, il risque d'y avoir ce type d'action aujourd'hui. Nous, on pense c'est toujours une très mauvaise idée quand on importe un conflit sur notre territoire. Donc je crois qu'il faut laisser ça de côté aujourd'hui. Il y a suffisamment de thématiques et de revendications autour du travail pour peut-être aujourd'hui pouvoir consacrer cette journée uniquement à cette thématique.
Le leader de la CGT dans le Nord a été condamné pour un tract que la justice a considéré comme étant une apologie du terrorisme. Vous êtes choqué parce que condamner un syndicaliste, c'est toujours un problème, ou bien vous dites il ne faut pas parler de ces sujets-là, c'est pas le métier des syndicats.
Je dis que il ne faut pas parler de ces sujets-là pour un syndicaliste parce que c'est pas notre métier. En tout cas, nous à la CFTC, c'est notre position. On essaie de ni faire de politique, ni d'importer des conflits extérieurs. Je crois parfois qu'il y a une tendance à vouloir parler de tous les sujets tout le temps. Nous, à la CFTC, on a décidé de se concentrer sur notre cœur de métier, la défense des salariés, le travail, et ne pas aller sur des considérations politiques ou internationales. Après, sur la condamnation, je connais pas bien ce sujet précis. Les syndicalistes, ils sont comme les autres, ils ont ni être avantagés ni être désavantagés. Donc ça dépend ce qu'on a fait. On respecte la loi et on est condamné si on ne respecte pas. Donc voilà.
On a eu un sentiment d'échec avec la négociation sur l'emploi des seniors. Pourquoi ça ne marche pas, la négociation entre partenaires sociaux ?
Alors d'abord, je peux pas laisser dire cette généralité. Les négociations entre partenaires sociaux marchent plutôt très bien.
Et notamment dans l'entreprise.
Notamment dans l'entreprise, mais même au niveau interprofessionnel. Je rappelle que nous avons signé patronat et syndicat 6 accords nationaux interprofessionnels en 4 ans. C'est historique, c'est du jamais vu. Et sur les thématiques très importantes, télétravail, santé au travail, partage de la valeur. Vous voyez, des choses qui étaient pas simples. Donc ça marche très bien. Sur la dernière négociation, pacte de vie au travail, emploi des seniors, reconversion professionnelle et CTU, on n'a pas réussi à se mettre d'accord parce que, tout simplement, je crois qu'il n'y avait pas une réelle volonté du patronat. Nous avions une ligne de conduite du gouvernement avec une orientation qui était donnée. Le patronat nous a dit tout de suite que une des thématiques était le compte épargne-temps universel. Il n'en voulait pas, il ne l'aborderait pas. Or, c'était une commande dans la négociation. Sur les seniors, il ne souhaitait pas de retraite progressive et simplement avoir des exonérations une fois de plus pour embaucher des seniors. On arrivait un petit peu, vous savez, dans le achetez-vous un senior pas cher. Et ça va, c'est pas comme ça qu'on va revaloriser les salaires. Et sur les reconversions et la formation professionnelle, on avait plus des reculs par rapport au dernier accord qu'on avait signé que des avantages. Donc on a après 3 mois de négociations acté un échec. Ça arrive parfois, mais il faut pas oublier toutes les autres négociations sur lesquelles on a abouti.
D'ailleurs, sur le compte épargne-temps universel, vous avez abouti, vous, avec l'UDP ?
Oui, alors c'était assez surprenant puisque c'est assez rare qu'une organisation patronale se désolidarise des deux autres et veuille continuer les négociations. On avait des propositions qui étaient acceptées et des compromis qu'on avait pu faire avec l'UDP à la fois sur les reconversions professionnelles et sur le compte épargne-temps universel. Donc on a pu en 2 matinées se mettre d'accord sur 2 thématiques alors qu'on avait travaillé 3 mois auparavant sans se mettre d'accord avec les autres organisations patronales. Et donc je sais que nous, la CFTC, en tout cas, on signe cet accord CETU reconversion professionnelle. Je sais que mes collègues de la CFDT ont aussi communiqué qu'ils signaient. Je crois qu'il y a pas, enfin, tout le monde ne s'est pas encore prononcé, mais je pense qu'il y aura 4 signatures de ce côté là au niveau des OS.
Pour les salariés, le CPF, le compte qui permet de se former, sera payant désormais. Il faudra avancer 100 euros pour la plupart. C'est un recul ou ça va inciter les travailleurs à mieux sélectionner leur formation ?
Le problème qu'il y a, c'est que c'est une nouvelle fois une mesure générale qui va pénaliser. Je crois que derrière l'idée du gouvernement, c'était Il y a trop de personnes qui suivent une formation, qui abandonnent au cours de la formation, qui vont pas jusqu'au bout. Donc, en payant quelque chose, ça va les responsabiliser. Il y avait un travail à faire, comme vous le dites, pour mieux choisir sa formation. Il y avait parfois pas de travail qui a été fait ni au niveau des ressources humaines de l'entreprise, ni une véritable réflexion au niveau du salarié. Donc, il fallait prendre ça vraiment au sérieux et nous avons créé les organisations syndicales et patronales, un conseiller en orientation professionnelle qui devait permettre de faire ce lien. Après, ok, on a fait ce constat-là, mais le fait de devoir payer 100 euros pour toute une série de personnes, c'est compliqué. Donc, oui, il fallait améliorer ce choix de formation. Oui, il fallait que les personnes n'arrêtent pas en cours de route, mais je crois qu'en faisant payer ces 100 euros, c'était pas une bonne idée, et ça va encore jouer sur le pouvoir d'achat de ceux qui sont les plus précaires.
Le pouvoir d'achat, les salaires, c'est le grand combat. Désmicardiser la France, c'est l'objectif de Gabriel Attal. Vous le voyez avancer dans ce sens-là ?
Non, on le voit pas avancer. C'est le grand chantier du moment. Nous devions il y a toute une partie de sujets sur lesquels on doit travailler, sur le fait de revoir les conventions collectives, les rémunérations, les grilles de rémunération qui devaient être revues pour donner de l'air, pour donner de la perspective, pour qu'il y ait plus de niveaux de rémunération qui démarrent en dessous du SMIC avec des compensations qui sont faites à côté de ça. Aujourd'hui, ça n'avance quasiment pas. Pas de coup de pouce au SMIC, même quand il y a des moments de forte inflation. Donc, on voit pas vraiment ce travail venir. Et au contraire, on voit plutôt, on continue la même politique d'aller sur des exonérations aux entreprises toujours plus importantes, sans contrepartie.
Au nom de l'emploi, quand même, dit le gouvernement, pour que les entreprises puissent continuer à être compétitives en embauchant.
Oui, ce qu'on demande depuis le départ, c'est d'avoir un peu une mise à plat de toutes ces aides et ces exonérations. On n'est pas dogmatique à la CFTC. Il y a toute une série d'exonérations ou d'aides aux entreprises
qui
sont efficaces et qui marchent. On les garde. On sait aussi, la Cour des comptes a déjà fait plusieurs rapports, qu'il y a une autre série d'aides ou d'exonérations qui n'ont pas d'effet, voire parfois même des effets pervers. Mettons toutes ces aides sur la table. 200 milliards d'aides aux entreprises si on fait la globalité aujourd'hui. Si simplement 10% de ces aides n'étaient pas efficaces, ça fait 20 milliards d'euros. On a mis des millions de gens dans la rue pour récupérer 10 milliards pour les retraites. On met encore beaucoup de tours de vis avec le ministre de l'économie pour récupérer ces fameux 10 à 15 milliards d'économies. Là, simplement 10% qui seraient pas utiles, 20 milliards qui rentrent dans les caisses.
Mais qui doit faire ce travail d'expertise ? C'est le Parlement ? C'est la Cour des comptes ? C'est vous, les partenaires sociaux ? Les aides qui marchent, les aides qui marchent pas ?
Ensemble, nous on demandait à ce que ce soit inscrit dans l'agenda social et travailler comme on le fait régulièrement avec le gouvernement, le Parlement évidemment, les organisations syndicales et patronales, accompagnées par des experts. Il y a des tas de sujets où on est accompagné par la Cour des comptes, par la DARES, par l'INSEE, avec toute une série d'études, de thématiques. Donc on se mettait tous autour de la table. Et je crois que si on était sérieux, avec un esprit un peu constructif et d'y arriver, on aurait pu faire ce travail-là et que l'aide soit vraiment efficace.
Alors, il y a des salaires qui se portent bien, c'est les salaires de certains grands patrons.
Oui.
Polémique récurrente récemment avec Carlos Tavares. Quelle solution vous préconiseriez ? Faut plafonner les salaires des patrons ? Faut fiscaliser, surfiscaliser ?
Il faut, plutôt que de plafonner, il faut créer un écart maximum de salaire entre le plus bas et le plus haut dans l'entreprise. Et ce qu'on appelle souvent ce fameux facteur X.
X4, X10, X20.
Et il faut pas le mettre de manière unilatérale et globale pour toutes les entreprises. Il faut que ce soit négocié au minimum par branche. Parce qu'on pourrait comprendre que dans certains secteurs d'activité, il puisse y avoir des écarts. Peut-être que dans certains endroits, le x10 serait maximum, dans d'autres ça serait x13 ou x14, parce qu'il y aurait des explications par rapport à des secteurs plus ou moins rentables, par rapport à des perspectives de croissance ou d'avenir. Voilà. Mais ça doit être, en tout cas, discuté. Et 36 millions d'euros, évidemment que c'est indécent. Mais on voit quand même de bonnes nouvelles. On voit le patron de Michelin qui met en place dans le monde ce qu'il appelle le salaire décent, qui est au-delà du SMIC et qui plafonne sa propre rémunération. Lui, c'est 1,1 million d'euros par an. Et avec les primes, ça peut doubler, tripler au maximum avec des primes de résultats. Parce que parfois, on voit des salaires exorbitants avec des résultats économiques qui ne sont pas bons. On a encore plus de mal à le comprendre. Donc, vous voyez, il y en a certains qui vont dans ce sens-là, c'est bien. Assurance chômage, le gouvernement va mettre en place un tour de vis. L'opinion ne se mobilise pas. Est-ce que vous, vous allez combattre cette réforme ?
On va combattre cette réforme, mais vous l'avez dit, on sait que sur ce sujet-là, on mettra personne dans la rue. Je crois qu'il y a beaucoup de préjugés sur les chômeurs et c'est bien dommage. L'État va faire un nouveau tour de vis. C'est quand même l'inverse de ce qu'il nous avait dit il y a quelque temps. Rappelez-vous la fameuse contracyclicité. Aujourd'hui, on revient en arrière. Je crois qu'il faut arrêter. Ça fait en 4 ans, on a eu 3 réformes de l'assurance chômage. 3 fois un tour de vis, ça a pas marché. Le 4e donnera pas plus de résultats.
Cyril Chabanier, merci et bon 1er mai.
Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup Christophe. On vous retrouve demain matin 7h45. Votre invité sera Annie Genevard, secrétaire générale des Républicains.
Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J. Radio J, 15h-16h30, Cyril Sarah-Cohen.
Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi avec un invité.
Et je suis ravie d'être invitée à Radio J.
Des chroniques et un coup de cœur à vous faire découvrir.
Et ce temps de parole, honnêtement, est très précieux. Donc merci à vous.
À tout à l'heure.
Radio J. Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci d'être avec nous